Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très enchanté que vous êtes venus et je suis heureux d'être ici. Et je remercie madame Duvillard pour l'invitation. C'était très gentil. C'est la première fois pour moi à Sierre, le dernier lieu d'action de Rilke. Et je vous présenterai un Rilke que vous peut-être ne connaissez pas. Un Rilke assez radical, parfois enthousiaste, politiquement gauche. C'est le Rilke des années 1918-1919 à Munich. Pour 175 jours, la Révolution a tenu la Bavière en haleine. Oscar Maria Graf s'est extasié, Thomas Mann s'est fâché et s'est amusé à tour de rôle. Léon Feuchtwanger a digéré les événements dans un drame. Erich Mühsam, Ernst Toller, Gustav Landauer ont assumé des fonctions importantes sans vraiment exercer de pouvoir. Leur rapport et mémoire glissant dans un reportage que captivant et furieux, comme je trouve, à l'époque suivante, immédiatement, la Première Guerre mondiale ou la Grande Guerre. Et Rilke, vous peut-être demandez, et je me demande qu'est-ce que vous y pensez, mais laissez-moi commencer avec une comparaison. La Suisse n'est pas la Suisse. Il y a 4 régions linguistiques, 3 régions géologiques, les Alpes, le Jura, le Plateau, 2 grandes villes de renommée mondiale, pas Bâle et Berne, mais Zurich et Genève, comme je trouve, et un village fédéral que sert de capitale. Et pour nous Allemands, nous avons eu une très petite capitale, Bonn, mais maintenant nous avons une capitale impériale, Berlin, et je ne sais pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon, je ne sais pas. Mais analyser Rilke, c'est un peu comme analyser la Suisse. Il y a le Rilke de Prague, le Rilke de Berlin, le Rilke de Paris, le Rilke de Munich et le Rilke de Sierre. Chacun de ces lieux a influencé les idées, les sentiments, les convictions, les expressions de Rilke, et parmi tous les lieux, les deux derniers ont produit des résultats les plus opposés, même contradictoires. Le Rilke de Munich est complètement différent du Rilke de Sierre. À Munich, Rilke a vécu, après une brève parenthèse comme étudiant en 1896-97, entre l'éclatement de la Grande Guerre jusqu'en mi-1919. Après la répression de la Révolution bavaroise et la République soviétique de Munich, il s'est rendu, ou on pourrait dire il s'est enfui, en Suisse. Son dernier logis était le château de Musotte. Depuis Musotte, il a adressé 19 lettres à la comtesse Aurelia Gallarati Scotti, les lettres milanaises. Celles qu'il a écrites en janvier 1926 sont les plus déconcertantes. C'est ce qu'il semble à quelqu'un qui, d'abord, comme moi-même, a fait connaissance du Rilke de Munich. À Munich et à Sierre également, nous rencontrons un Rilke qui adhère aux idées radicales. Mais ces idées ont changé de la gauche à l'extrême droite. Dans les lettres milanaises, Rilke se comporte comme un applaudisseur de Mussolini. Quant aux démocraties de l'Ouest, Rilke décrypte un parlementarisme vide et vaniteux. Le moindre mal, pour lui, est une certaine force qui s'emploie pour créer l'ordre. Mais en Italie, il s'enthousiasme qu'elle sort, et non seulement dans la littérature, mais dans la vie publique. Rilke imagine Mussolini comme un dictateur bénévolent. Dans un monde devenu malade, il est convaincu, la liberté surcharge les gens. Mais les dictateurs, écrit-il, les véritables dictateurs ont parfois compris en exerçant une salutaire et sûre violence. Non seulement le monde est malade, mais aussi Rilke. Il s'excuse, pour ainsi dire, auprès d'Aurelia Gallarati Scotti pour son changement d'avis, demandant si, parce que je suis un malade moi-même, que je préconise l'emploi du régime, du remède qui comporte toujours l'autorité, une certaine violence temporaire et une privation de liberté. Est-ce que c'est vraiment une excuse? Rilke va mourir dans la même année qu'il a écrit cette lettre. Une autre excuse, est-il peut-être le dictateur lui-même et son passé gauchiste? Jusqu'au début de la Grande Guerre, Mussolini était rédacteur en chef de l'Avanti, l'organe officiel du Parti socialiste italien. Et ça nous emporte à Munich. Dans une lettre de Munich du 11 octobre 1918 à la comtesse Marietta de Courton, Rilke dépeint l'état de son âme. Munich devient de plus en plus creux dans tous ses espaces. Depuis que les trois cloches de l'église Saint-Ursule sont allées à la guerre, alors ils étaient réquisitionnés pour des fins militaires, il me semble de ressentir en lui un tel vide intérieur qui s'est aussi emparé de mon faciès et de mon âme. Mais cette attitude va changer rapidement. Rilke, le poète caméléon, on pourrait dire. À Munich, en Bavière, Rilke a suivi un autre socialiste, un ré socialiste, Kurt Eisner. Par analogie avec Mussolini, était avant la guerre, il était le rédacteur en chef du Vorwärts, le pendant allemand de l'Avanti. Rilke et Eisner se rencontrent pour la première fois à Munich vers la fin du janvier 1918 à l'hôtel Continental où Rilke réside. Eisner a quitté le Parti social-démocrate, le SPD, pour des sociaux-démocrates indépendants, l'USP, dont il a fondé la section bavaroise. Pendant la guerre, les indépendants ont rompu avec le SPD. Le parti renégat exige une paix si tôt que possible. Le seul chemin qui y mène, selon Eisner, est une révolution. L'SPD, toutefois, préfère le chemin d'évolution. D'abord, gagner des élections parlementaires et ensuite finir la guerre. Pour le 31 janvier, Eisner et l'USP ont organisé la grève générale à Munich. Rilke s'adresse à Eisner dans une autre affaire. Son ami et mécène, Hertha König, a besoin d'aide. Rilke a passé l'été avec elle au château de Böckel en Westphalie. Par la suite, Madame König lui laisse son logement à Einmillerstraße 34 à Schwabing, le quartier latin de Munich. Madame König est en train de fonder une œuvre de bienfaisance en faveur de ceux que la guerre a fait nécessiteux. Peut-être que Eisner, avec ses multiples contacts, pourrait se rallier à sa cause. Aux grandes dames de Madame König et Rilke, Eisner subordonne son support de la reconnaissance publique de ses efforts. et Madame König ne le veut pas laisser les mérites. C'est la fin du projet, mais ça n'est pas la fin des relations entre Eisner et Rilke. L'année 1918 voit Eisner être emprisonné à cause de sa participation à la grève générale. Rilke, pendant toute la guerre, n'a presque rien écrit, à l'exception des lettres. Il a essayé de reprendre son travail des élégies en vain. Rilke finira la cinquième élégie 3 ans plus tard, à Musot, et il la dédiera à Hertha König. Quant à la guerre, il y a eu un traité entre la Russie et le Reich à Brest-Litovsk. Mais en France, le combat continue. Le 8 septembre, Rilke perd un ami. Bernhard von Emarwitz, âgé de 27 ans, tombe sur le champ de bataille près d'Amiens, dans la Somme. Pour quelques semaines, Rilke est en deuil. À la mi-octobre, Eisner est libéré de prison. Il y a 2 semaines que l'Empire allemand a obtenu un nouveau chancelier impérial. Max de Bade est un politicien moyen, libéral, même acceptable pour les sociaux-démocrates. Malgré tout, il est le choix des conservateurs. Max de Bade a accepté de mener à bien les négociations d'un armistice. Ainsi, la transformation de l'Empire, de fait une dictature militaire vers une démocratie, pourrait être effectuée. Rilke écrit une lettre à Max de Bade. Il voit une chance que le Reich ouvre une nouvelle page de son histoire. S'exercer à l'humilité, ce serait quelque chose jusqu'au moment inconnu du peuple allemand. Dans les négociations de paix, à venir bientôt, un tel geste pourrait gagner la sympathie des alliés et améliorer la position de l'Allemagne. D'autre côté, Rilke, comme il écrit à Katharina Kippenberg, la femme de son éditeur, Rilke craint qu'une nouvelle politique allemande, après 4 ans de mensonges, soit peu crédible et mène directement à la révolution. Et alors, Rilke a-t-il peur d'une révolution? Il n'est pas sûr. Le 7 novembre, le jour de la révolution bavaroise, Rilke écrit une lettre à sa femme Clara Rilke-Westhoff. 3 jours en avant, il a passé le soir à l'hôtel Wagner. Situé juste au centre de la grande ville, l'hôtel possède une grande salle pouvant accueillir plus de 1000 personnes, dont la plupart cette nuit sont des ouvriers munichois et des gens simples. Rilke dépeint la situation. Bien que l'on fût si serré autour des tables, que les serveuses ne pouvaient se mouvoir qu'en grignotant leur chemin au milieu de toute cette humanité, comme des vers dans les bois, on ne se sentait nullement étouffé. Les vapeurs de bière et de tabac, l'odeur des hommes n'était pas oppressante. On y prêtait à peine attention, tant on sentait que là, tout de suite, ce qui devait être dit pouvait enfin l'être, tant il était clair que l'énorme foule s'emparerait aussitôt, par ses applaudissements des plus directs et des meilleurs de ses paroles. Voilà soudain un jeune ouvrier, très pâle, qui monte sur l'estrade et parle simplement. « Est-ce vous, ou vous, dit-il, qui avez fait le demande d'armistice ?» Pourtant, ce serait à nous de la faire, pas à ces messieurs là-haut. Prenons une station de radio et parlons, nous, les simples gens d'ici, aux simples gens de là-bas. Et ce sera aussitôt la paix. Je ne le dis pas écrit Rilke, aussi bien que lui. Mais une difficulté lui apparut tout à coup, et il se tourna avec une attitude touchante vers Weber, Quidde et les autres intellectuels qui étaient près de lui sur l'estrade. Il y avait trois professeurs sur l'estrade, Max Weber, économiste et sociologue, Edgar Jaffé, économiste lui aussi, qui, quelques jours plus tard, deviendra ministre des Finances de la République populaire de Bavière, et Ludwig Quidde, historien, qui gagnera le prix Nobel de la paix en 1927. Ces messieurs, les professeurs, continue l'ouvrier, savent le français, ils nous aideront à exprimer comme il faut ce que nous avons à dire. De tels moments, écrit Rilke, sont magnifiques. Comment avons-nous pu vivre sans, justement, en Allemagne? Au moment où il a pris connaissance de la révolution russe, il y a un an, Rilke s'est extasié. Un nouveau temps, le futur, enfin, il a écrit, à bout de souffle, mais tout à fait heureux, à Katharina Kippenberg. Rilke est en faveur des réformes démocrates, de l'élimination des militaires comme facteur politique et de la démission de l'empereur Guillaume. Mais il déteste un renversement par la violence comme en Russie. Rilke préfère un système parlementaire à un système totalitaire. Néanmoins, il a trouvé la révolution bolchevique nécessaire. Mais tout d'abord, Rilke espère un changement du climat spirituel vers une société libérale. Rilke se réveille le matin du 8 novembre, tous ses rêves devenus réalité. C'est dans la presse qu'il apprend la révolution. Le jour d'avant, il a commencé la lettre à Clara Rilke-Westhoff que j'ai citée. Il a continué le prochain jour. Nous avons passé une nuit bizarre. Maintenant, un constat de soldats, de paysans et d'ouvriers est installé ici aussi. Rilke se réfère à la révolution russe. Il y a exactement un an et maintenant un jour. Kurt Eisner est ministre-président. La couverture complète des Münchner Neueste Nachrichten, c'est le plus grand journal de Munich, consiste d'un arrêté d'Eisner dans lequel la République bavaroise assure à ses habitants le calme et la sécurité. L'entreprise nocturne était précédée d'un rassemblement sur la Theresienwiese, la grande place à Munich où chaque année se tient la fête d'octobre. 120 000 manifestants, Rilke continue, étaient attendus. Il nous reste à espérer que cette insurrection conduise à la réflexion dans les têtes et pas à une exaltation fatale. Jusqu'à ce moment, tout semble calme. On ne peut qu'admettre que le temps a raison d'aussi faire des grands pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Après trois quarts de millénaire du règne ininterrompu, la dynastie des Wittelsbach est finie. Le roi Louis le Troisième de Bavière est parti en exil. Eisner, élu par le Conseil des paysans et d'ouvriers, a proclamé l'État libre de Bavière, le Freistaat Bayern. La révolution a demandé peu de temps, un après-midi et une nuit. En attendant, Rilke a fréquenté un concert des Augusta Hartmann. Plus tard ce soir, dans la maison de Madame König, Rilke a essayé de séduire la chanteuse. Il y a d'autres écrivains à Munich qui ont activement participé à la Révolution. Erich Mühsam, par exemple, est devenu président du Conseil des ouvriers révolutionnaires, l'organisation la plus radicale en Bavière. Ernst Toller deviendra vice-président de l'Alliance des conseils bavarois et Gustav Landauer, invité à Munich par Eisner lui-même, renonce à la direction artistique du théâtre de Düsseldorf. Rilke, lui aussi, veut s'engager dans la politique. Dans cette phase précoce de la Révolution, la question du système n'est pas encore décidée. La gauche est au pouvoir, les conservateurs sont sur leur défensif et les libéraux attendent. La plupart des paysans pactisent hors des sentiers battus avec l'extrême gauche. Tous, ils préfèrent une république de conseil. Seulement les sociaux-démocrates sont en faveur du parlementarisme. Et Eisner s'essaie à un mélange. La politique culturelle, par exemple, est attribuée au ministre de la Culture. L'organisation rivale au système de conseil serait un conseil d'ouvriers spirituels. Les derniers se comprennent comme des artisans plutôt que des artistes, les uns prolétaires et bourgeois, les autres. Rilke, malgré le fait d'être plus artiste qu'artisan, se sent proche du conseil d'ouvriers spirituels. Il se rend à Schwabing pour prendre part à l'Assemblée constitutive. Là, au salon d'Alexandre de Bernus, il tombe sur Oscar Maria Graf. Écrivain comme lui, Graf est le contraire de Rilke. Paysan, prolo, antisnobiste, toujours au centre des événements et pas, comme Rilke, au bord ou au-dessus. Dans l'après-midi du 7 novembre, Graf se trouvait parmi les manifestants révolutionnaires de la Theresienwiese. Graf est un artisan qualifié, il est boulanger. Aussi, il écrit des poèmes. Alors, il se sent comme un ouvrier spirituel. Rilke, par contre, est artiste. Exalté par la Révolution, il aimerait être plus proche des ouvriers. Mais il est incapable de sortir de sa coquille. « Il n'y a pas de poème dans mon œuvre, écrit-il à Annie Meves, qui se laisse lire par les ouvriers. » Mais c'est entendu que Rilke n'a pas envie de changer son style. L'assemblée chez Bernus déçoit tous les deux, Rilke et Graf. J'ai trouvé autant de gens lettrés et cultivés, Graf s'en fâche, qui n'avaient jamais eu rien à voir avec les classes populaires. Se réfère-t-il à Rilke? Pas du tout. Certes, Graf a l'impression qu'il y a beaucoup de poseurs parmi les autres, mais l'un d'entre eux échappe à la règle. Dans un coin, très modeste, Graf se souvient, s'est penché Rilke. Et Rilke lui-même, tous les conseils spirituels, il dévoile à Katharina Kippenberg, font naître le dilettantisme politique. Un autre événement fait plus d'effet à Rilke. Le soir du 17 novembre, il assiste à la fête de la Révolution. Le point culminant est un discours mémorable de Eisner. Nous voulons donner au monde l'exemple, dit le ministre-président, que, enfin, une révolution peut être la première révolution dans l'histoire, réunisse l'idée, l'idéal et la réalité. Pour Rilke, cette phrase est une épitaphe appropriée de la révolution. À son logement à Einmillerstraße, on a trouvé une coupure de presse que Rilke a gardée. C'est un passage de la déclaration du gouvernement Eisner, publiée dans les journaux munichois. Rilke a marqué les premières lignes avec un crayon bleu. C'est une invitation de participer à la construction du nouveau État populaire. L'appel souligne le bénéfice d'un tel engagement. Chacun aura l'occasion de s'activer au travail communautaire. Enfin, la vie gagne de sens et de but. Pour Rilke, la vie a aussi d'autres sens et buts en réserve. D'entre eux, une s'appelle Claire Studer, plus tard Claire Goll. À la recherche du poète qu'elle vénère, elle est venue à Munich. C'est le même jour que Rilke assiste à la fête de la Révolution. Quand il revient à Einmüllerstraße, un message l'attend déjà. Claire souhaite visiter Rilke pour lui réciter ses poèmes. Les prochains jours, les deux seront inséparables. Ils réduisent leur cosmos au grand lit de Rilke. Ce n'est pas que Claire Studer soit apolitique. Devant Rilke, elle se décrit comme bolcheviste. Claire se vante d'avoir publié des poèmes anti-guerre. C'était dans l'Action, la revue célèbre de Franz Pfemfert. Néanmoins, Rilke perd de l'entrain dans l'amour et dans la politique. Il passe Noël seul. Claire s'est enfuie à Berlin. Égocentrique, Rilke m'enfermait dans ses parenthèses, elle se souvient dans ses mémoires. Vers la fin de l'année 1918, Rilke reçoit du courrier. C'est une lettre du ministre des Finances. Le ministre personnellement l'a écrit. Edgar Jaffé est un ami. Il prie Rilke d'aider à l'édition d'une revue spécialisée qui s'adresse aux responsables pédagogiques. Rilke promet son aide. Ses efforts vraiment mènent au but. Trois mois plus tard, la Neue Erde, Nouvelle Terre, paraît au Dreiländer Verlag, édition Trois Pays, à Munich. Rilke a persuadé le propriétaire, Walter Schmidt-Kunz, d'investir dans le projet. De nouveau, l'entrain ne dure pas longtemps. Eisner a fixé des élections au Landtag pour le 12 janvier. Son parti indépendant et inexpérimenté perd avec fracas. Dans la suite, l'SPD aspire à une coalition avec les libéraux et la Ligue paysanne bavaroise. Serait-ce la fin d'Eisner? Envahi par le doute, Rilke considère sa situation. Le développement des événements l'a déçu. Il y en a marre de la politique, il y en a marre des intrigues amoureuses, il y en a marre de Munich. Rilke prépare son départ. Pour voyager hors de la Bavière, il a besoin d'un passeport. D'abord, il se fait photographier par Germain Krull. Sur l'image, on voit un homme de 43 ans, faciès d'un phoque, avec ses yeux protubérants et sa moustache en chevron. Pour obtenir le document, Rilke présente l'administration munichoise d'une invitation du cercle littéraire des Oettingen, près de Zurich. Le passeport sera issu de la République d'Autriche allemande. Rilke est né à Prague, maintenant la capitale de la Tchécoslovaquie. Mais au temps de sa naissance, en 1875, la ville faisait partie de la double monarchie austro-hongroise. Un an plus tard, Rilke recevra un passeport tchécoslovaque. Mais Rilke doit attendre pour quitter Munich 5 longs mois jusqu'en juin. C'est à cause de la politique. Sur le chemin du Landtag, Kurt Eisner est assassiné. Il était en train de présenter sa démission au Parlement. Le meurtrier, le comte Anton Arco-Valley, adhère à l'extrême droite. C'est le 21 février 1919. Au cours du même jour, dans un acte de représailles, deux membres du Parlement meurent également. Ensuite, le Parlement est dissous. Dans la prochaine session, un mois plus tard, le champion du SPD, Johannes Hoffmann, est élu ministre-président. Entre-temps, le Parlement a perdu le contrôle. À Munich et au sud de la Bavière, les conseils prendront le pouvoir et Hoffmann et les autres ministres s'exilent à Bamberg, au nord du pays. Ainsi, la Bavière a deux gouvernements ennemis, deux gouvernements gauchistes ennemis. Dans une lettre à Karl von der Heydt, un ami banquier, Rilke déplore l'assassinat d'Eisner, un homme que j'ai bien apprécié. La Bavière en général et la capitale en particulier, pour Rilke, ont perdu tout leur charme. « Munich est fini pour moi », fait-il savoir à Annette Kolb au premier jour de printemps, comme un livre que j'ai lu 20 fois aux prisons, du début à la fin. Rilke arrange son départ pour la Suisse à la mi-avril. Il ne dure pas longtemps et il souhaite d'être parti plus tôt, si c'était possible. Après tout, il y a des moments plaisants à Munich. Par exemple, c'est lui quand Rilke va chercher Lou Andreas Salomé à la gare. Plusieurs fois, l'ami de longue date a remis sa visite. Au calende grec, comme Rilke avait craint, mais quand elle arrive enfin, une nouvelle a surpris toute l'Europe centrale. Une république des conseils s'est installée à Budapest. Une république soviétique existe déjà en Russie, une autre en Hongrie et bientôt une troisième en Bavière. C'est de toute façon le désir de la gauche. Même Thomas Mann note dans son journal intime, ou plutôt pas si intime, il écrit ce journal pas seulement pour soi-même, mais aussi pour être lu. « Je suis susceptible, écrit-il, de descendre dans la rue et scander à bas la démocratie mensonge occidentale. Vive l'Allemagne et la Russie, vive le communisme !» Rilke a une position différente. La politique, rapporte-t-il à Karl von der Heydt, se cabre comme un cheval de façon vilaine. Le 7 avril, la République des conseils bavaroise est réalité. Une semaine plus tard, après une tentative de coup d'État de la droite, les communistes établissent la République soviétique. Rilke n'est plus enthousiaste. Il n'y a pas longtemps qu'il a lu 5 à 6 journaux chaque jour durant des mois, fait-il savoir à Karl von der Heydt, dont j'étais en accord avec les plus gauchistes. Ces temps sont perdus. Rilke est toujours désolé. Comme c'est dommage, il y a eu une situation gouvernable au début de novembre. Comment tombait-il le matériel malléable entre de mauvaises mains des messieurs Ebert et Noske, tous les deux, Friedrich Ebert, le président du Reich, et Gustav Noske, le ministre de l'armée de la Reichswehr, étaient affiliés à l'SPD. Mais il y a pire. Au 1er mai, les troupes gouvernementales et les corps francs, appelés à l'aide par Johannes Hoffmann, et recruté par Gustav Noske, attaque Munich et occupe la capitale bavaroise. Dans la suite, près d'un millier de gens meurent, la plupart d'entre eux fusillés par des coffrons. Rilke passe la nuit du 30 avril au 1er mai à son logement avec Lou Andreas Salomé. Ils entendent les tirs, mais cette nuit, les soldats les laissent en paix. Quelques jours plus tard, tôt le matin, à 5 heures, la police frappe à la porte de Einbühlerstraße 34. Lou est parti pendant la nuit. Rilke est seul. Sera-t-il arrêté? Oui, se souvient-il Alfred Wolfenstein, écrivain lui aussi et, pour une courte durée, membre du Conseil d'ouvriers spirituels. Wolfenstein prétend être allé chercher son ami au commissariat de police. Mais les souvenirs de Rilke, où Wolfenstein a écrit ça, sont publiés 16 ans après les événements. En plus, il n'y existe aucun rapport d'une arrestation de Rilke à Munich. D'autres sont plus affectés. Gustav Landauer est assassiné par les coffrons. Le chef des communistes, Eugen Leviné, est fusillé dans la prison de Stadelheim. Ernst Toller et Erich Mühsam sont condamnés à de longues peines de prison. Oskar Maria Graf aussi est emprisonné à Stadelheim. Il n'a jamais obtenu une fonction pendant la Révolution. Pourtant, Graf est dans la galère. Il s'adresse à Rilke. Peut-il intervenir pour lui? Rilke a déjà signé un appel pour mettre fin à la violence. L'appel est issu de 22 personnalités du monde culturel et économique, parmi eux Thomas et Heinrich Mann. Il paraît le 9 mai aux Münchner Neuesten Nachrichten. Rilke écrit à Karl von der Heydt qu'il déteste la restauration de l'ordre après la répression de la Révolution. Pour lui, les applaudissements des citoyens à la violence sont la hauteur de la barbarie. Une lettre de l'avocat Ernst Seidenberger informe Rilke sur le destin de Graf. Immédiatement, Rilke esquisse une réponse. Mais comment disculper Graf? Peut-être qu'il eût été politiquement désorienté? Certainement, Graf a agi pour des motifs nobles, en suivant son idéal d'humanité, Rilke atteste, jugeant le caractère de Graf, il préférerait se sacrifier plutôt que recourir à la violence. Rilke souhaite, écrit-il, de tout cœur que cet écrivain sérieux et doué puisse s'y remettre assez vite au travail. Rilke quitte Munich le 11 juin 1918, 5 jours après que l'administration a autorisé son immigration en Suisse. Plus jamais il mettra le pied dans cette ville. Avant de partir, Rilke reçoit une lettre. Oskar Maria Graf, libéré de prison, remercie pour l'intercession. 3 ans plus tard, Rilke confesse, dans une lettre à l'écrivaine suédoise Ellen Key, qu'il y avait un petit moment qu'on a pris vraiment conscience au temps de Kurt Eisner. Ça aurait été un reflet de l'humilité, un trait que le visage allemand a perdu et par la perte, il est devenu vide et fou. Arrivé en Suisse, Rilke ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Quant à la politique, il écrit à Aurelia Gallarati-Scotti, « Je suis si loin d'elle, si incapable de suivre et de m'expliquer ses mouvements et ses contre-coups, que ce serait ridicule de vouloir me prononcer sur n'importe quel événement situé dans son domaine. Il y a eu un temps où Rilke se trouvait assez proche de la politique. C'était à Munich.